Science Friction.
Je reformule ma théorie. 1. Le langage de la nature est mathématique. 2. Tout ce qui nous entoure peut être mis en équation. 3. Toute représentation graphique d'une équation met en évidence une séquence. Donc, la nature est faite de séquences. Preuve, le cycle des maladies épidémiques, les fluctuations de la population animale, la récurrence des taches solaires, la crue et la décrue du Nil. Et que dire de la bourse? Un univers de chiffres qui régit l'économie mondiale. Des millions de mains à l'œuvre, des milliards de cerveaux, un immense réseau grouillant de vie. Un organisme naturel. Mon postulat, les variations boursières dépendent aussi d'une séquence. Elle est devant moi, cachée derrière les chiffres. Elle a toujours été là. 12h50, tapé en voix.
Cet extrait du film Pi, réalisé par Darren Aronofsky en 1998, illustre l'un des rêves les plus fous des mathématiciens, découvrir derrière l'apparence chaotique de nombreux phénomènes naturels ou humains, la séquence numérique, la formule magique ou la courbe géométrique cachée. Un rêve dangereux lorsque, comme dans ce film, il conduit à la folie, mais vivace chez de nombreux chercheurs qui refusent d'admettre l'existence d'un hasard totalement impossible à maîtriser, d'un chaos échappant aux équations. Dans les années 1960, une nouvelle discipline a entretenu l'espoir que ce rêve pouvait devenir réalité. Il s'agit de la géométrie fractale qui a révélé que des formules mathématiques simples peuvent engendrer des courbes complexes, des courbes dotées d'une beauté étrange et inconnue et d'une aptitude à décrire des formes naturelles aussi étrangères aux mathématiques classiques que le profil dentelé d'une côte comme celle de la Bretagne. L'inventeur de cette géométrie, qu'il a baptisée géométrie fractale, est un Français d'origine polonaise, Benoît Mandelbrot, devenu célèbre dans le monde entier, même si ses théories ont soulevé polémique et incrédulité. Comment définir la géométrie fractale plus de 40 ans après les premiers articles de Benoît Mandelbrot? Existe-t-il des applications concrètes de sa théorie, qu'il baptise aujourd'hui de théorie de la rugosité? Peut-on vraiment espérer trouver un peu d'ordre dans les phénomènes qui nous paraissent comme les plus chaotiques, qu'il s'agisse de la turbulence des gaz, des variations climatiques ou des aléas des cours de la bourse? Pour tenter d'apporter quelques réponses à ces questions délicates, nous avons la chance de recevoir dans Science Friction Benoît Mandelbrot et Emmanuel Bacri. Alors Benoît Mandelbrot, comme je viens de l'indiquer, vous êtes l'inventeur de la géométrie fractale, vous êtes polytechnicien et vous avez été membre pendant 35 ans de l'un des plus prestigieux centres de recherche d'IBM et vous enseignez aujourd'hui les sciences mathématiques à l'université de Yale aux États-Unis. Face à vous est Emmanuel Bacri, vous êtes normalien, vous êtes chargé de recherche au CNRS, professeur chargé de cours en mathématiques appliquées à l'école polytechnique et vous êtes un spécialiste des fractales. Avec vous, nous sommes donc en présence de l'inventeur historique d'une théorie et de l'un de ceux qui l'appliquent aujourd'hui. Et nous allons consacrer deux émissions successives de Science Friction à ce domaine étrange des fractales. Aujourd'hui, nous tenterons d'en cerner un peu la définition et les principales applications. Alors Benoît Mandelbrot, afin de vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, il est utile peut-être de préciser que vous êtes né en 1924 à Varsovie et que vous avez vécu en France à partir de l'âge de 12 ans, avant de vous expatrier aux États-Unis en 1958. Alors pouvez-vous nous raconter, mais alors je sais que ça sera un exercice difficile, en quelques mots, comment est née la géométrie fractale?
D'abord, je voudrais préciser c'est que la manière dont je la vois aujourd'hui, 50 ans, 40 ans après sa formation. Et pour cela, j'aime bien me référer à un passé très lointain. Et au commencement, si on peut dire, il y avait le lisse et le rugueux. Et l'homme primitif voyait autour de lui quelques formes lisses, la pupille et l'iris des yeux, la pleine lune, deux ou trois autres, quelques formes plates, et puis une infinité d'objets extrêmement rugueux. Par exemple, les montagnes, les côtes, la foudre, tout était rugueux. Quelle a été la réaction de l'homme? La réaction de l'homme a été d'abord de se baser sur les petit nombre de courbes lisses, à savoir surtout le cercle, et en faire une cosmologie, une étude des étoiles et des planètes. Et ensuite, de là est venue la géométrie, de là est venue la physique, de là est venue la technologie, un développement extraordinaire. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'homme a fait des objets rugueux qui l'entourent? Eh bien, du point de vue du savant, la réponse était rien. Du point de vue de l'humanité, la réponse était de l'art. Et on s'aperçoit qu'au cours des millénaires, dans toutes les cultures du monde, dans toutes sortes de contextes, des formes très compliquées, très élaborées, ont été utilisées par des peintres, des musiciens et d'autres, sans jamais se référer aux autres exemples de ces formes. C'était très loin de la physique, de la géométrie. Ma chance a été d'être l'homme qu'il fallait, là où il fallait, au moment où il fallait, c'est-à-dire de connaître une certaine partie extrêmement ésotérique des mathématiques qui avait été créée, disait-on, dans le but précis de séparer les mathématiques du réel. Eh bien, pour des raisons très compliquées, trop longues à expliquer, je conçus l'idée folle que ces formes qui étaient donc inventées pour séparer diverses parties de la connaissance est en fait indispensable pour dompter la rugosité. Et qu'on pouvait, avec ces formes, aborder des phénomènes qui, avant ça, avaient été laissés de côté, faute de moyens mathématiques, faute de modes de pensée. Ceci s'est fait de façon très lente. J'ai commencé dans ma thèse, il y a plus de 50 ans, par décrire un phénomène qu'on appelle maintenant les longues queues. C'est un terme technique. Mais très vite, je me suis consacré aux coupes financières qui sont en somme la source la plus disponible, la plus magnifique donnée empirique dont on ne savait vraiment pas quoi faire. Et puis de là, je passais à d'autres domaines. L'évolution des fractales pendant longtemps a été conduite non pas par une logique interne, non pas par un but que je m'étais fixé, je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais, mais par une expansion naturelle. Après un problème, en venait un autre. Quand le deuxième problème rencontrait difficulté, souvent je le laissais, revenant au premier ou au troisième. Donc j'allais de problème en problème, souvent revenant sur mes pas et en utilisant de nouveaux thèmes, nouvelles techniques innombrables, et en suivant bien sûr de très près l'état de la société, car il y a certaines choses dont on peut parler à un instant donné, et d'autres choses dont il est inutile de parler parce qu'il n'y a personne pour vous écouter. Et ainsi, peu à peu, j'ai donc mis au point une géométrie fractale. Donc il y avait autrefois, il y avait des fractales depuis toujours, depuis l'aube de l'humanité. La géométrie fractale, elle est née au cours des années 60-70, en ajoutant, en organisant des théories déjà élaborées par moi pour divers buts très précis. Et puis, une fois mis ensemble, une fois élaboré, une fois nommé, le fait de trouver un nom pour ça a été essentiel. Une fois l'ordinateur venu pour rendre cette théorie beaucoup plus utilisable par tout le monde, il y a eu une véritable explosion d'activité et qui est dominée pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en particulier, par l'ensemble de Mandelbrot.
Alors, l'ensemble Mandelbrot est connu en particulier parce qu'il est une représentation graphique effectivement très spectaculaire, que beaucoup de gens ont dû voir sur des livres, sur des posters ou même des t-shirts, et qui a popularisé votre invention au fond.
Oui, et qui l'a popularisé, qui également démontre toujours certains thèmes extrêmement puissants de cette théorie. Le premier de ces thèmes et son ancienneté, car l'ensemble Mandelbrot n'est pas né du néant. Il y avait avant des objets qu'on appelait, très peu de gens les connaissaient, mais enfin, que ceux qui les connaissaient appelaient ensemble de Julia. Julia était un de mes professeurs à l'école polytechnique.
Gaston Julien.
Il avait fait, en 1917, une œuvre merveilleuse qu'on me pressait de continuer, on étant un oncle très proche de moi. Et cette œuvre de Julia était non continuable pendant 70 ans, personne n'a su quoi dire ensuite. C'est grâce à l'ordinateur et en fait grâce à l'œil, le fait que je peux sur des images, reconnaître des différences, voir des structures beaucoup mieux que la plupart de mes contemporains. Et j'ai donc pu voir dans cet ensemble, dans ces images innombrables de cet ensemble, des structures que je décrites, dont certaines ont été démontrées mathématiquement très vite, dont la principale est toujours ouverte, donc c'est d'une difficulté mathématique colossale. Et c'est d'une beauté plastique tout à fait inattendue. Et c'est aussi d'une inutilité totale.
Alors ça, on va falloir en parler et voir un petit peu si justement on est dans l'inutilité totale. Emmanuel Bacri, donc, vous êtes né en quelle année ?
En 65.
En 65, donc vous êtes né juste après, finalement, les premiers articles publiés
tout
par Benoît Mandelbrot.
Tout à fait.
Alors comment vous avez découvert ces fractales et pourquoi vous vous y êtes intéressé ?
C'est assez ironique parce que je pense qu'on va parler de hasard dans cette émission et en fait je suis tombé sur les fractales tout à fait par hasard. En fait, à la fin des années 80, j'étais étudiant et je travaillais sur une technique mathématique qui venait de naître en France, qui s'appelle les ondelettes, et qui est un outil d'analyse extrêmement fin, qui est une sorte de microscope mathématique qui permet d'étudier des irrégularités dans des objets. Et je travaillais là-dessus pour essayer de l'appliquer en fait à des signaux musicaux, parce que j'étais passionné de musique. Et l'année d'après, j'ai fait mon service militaire, et l'armée m'a utilisé pour faire des recherches sur la transformation d'ondelettes, mais cette fois-ci non plus appliquée à la musique, bien sûr, mais appliquée à l'étude de propriétés fractales des écoulements turbulents qu'on peut observer dans l'atmosphère. Donc en fait, au début, j'ai fait des fractales un petit peu malgré moi, obligé par l'armée. Et en fait, j'y ai pris goût. Et avec mes collaborateurs, enfin avec les personnes qui dirigeaient ma recherche à cette époque-là, on a obtenu de très beaux résultats. Et l'année suivante, j'ai décidé de commencer une thèse centrée sur les ondelettes, mais avec une grosse part d'application aux fractales. Et donc c'est comme ça que j'ai terminé cette thèse-là. Et c'est ce qui m'a permis de finalement... commencer ma carrière de chercheur, rentrer au CNRS et j'ai élargi, je vais dire, ce domaine en finalement me spécialisant sur ce qu'on appelle le traitement du signal, ce que je fais aujourd'hui.
Benoît Mandelbrot, vous avez mentionné l'importance de l'œil, ce qui peut-être est une caractéristique qui vous distingue le plus des mathématiciens, en particulier de l'époque dont vous parliez, c'est-à-dire des années 60 où les mathématiques étaient plus théoriques que visuelles peut-être. Comment ce don vous est apparu et comment vous l'avez exploité ? Peut-être est-ce qu'il vous a un petit peu éloigné du reste de la communauté des mathématiciens ?
Il m'est apparu de façon très brutale, inattendue, et en janvier 44. L'année 44 a été pour beaucoup de ceux qui l'ont vécu une année cruciale. Pour moi, avant 44, j'étais un jeune cherchant à survivre dans la France non occupée, ensuite partiellement occupée par les Allemands. Et après la fin de cette année, au début de l'année 45, j'avais le choix magnifique entre entrer à l'école normale ou à l'école polytechnique. Et en janvier 44, je me trouvais, pour des raisons trop compliquées à expliquer, dans une classe de taupe. Et j'avais sauté trois trimestres de taupe. Donc j'arrivais en deuxième semestre, la deuxième année de cet enseignement post-baccalauréat. L'idée était que je me tiendrais tranquille et pas me faire remarquer. Or, le professeur lisait des énoncés mathématiques assez abstraits par rapport à l'époque, et toujours algébriques. Or, instantanément, sans que j'aie fait le moindre effort, pendant que le professeur, M. Coissard, énonçait ce problème, je voyais devant mes yeux, dans ma tête, des objets géométriques qui s'intersectaient, qui se projetaient les uns sur les autres. Bref, c'était une chose complètement spontanée. Pendant que j'expliquais au professeur ce que j'avais fait et qu'il vérifiait, parce que c'était assez laborieux, il y avait une autre méthode géométrique qui se présentait à mon esprit. Donc, de façon constante, et vraiment totalement instantanée, totalement inconsciente, les structures géométriques se pressaient devant moi et j'arrivais à résoudre à l'avance des questions beaucoup plus compliquées que celles que posait le professeur. En cours de route, M. Coissard a dit à mes camarades de classe qui lui ont posé la question quelles étaient les prévisions, C'était en pleine guerre, est-ce qu'il y a le concours ou pas, personne ne le savait, est-ce qu'on serait vivant, personne ne le savait, mais enfin, on pensait quand même à l'avenir, et qui sera reçu, qui ne sera pas reçu. Alors pour moi, pour chacun, M. Coissard disait, voilà, vous avez telle et telle chance, et pour lui, et donc pour moi, eh bien, s'il devine la géométrie, il sera premier en tout, et s'il ne devine pas, il sera dernier en tout.
Et vous avez tout deviné.
Voilà. Mais ce qui fait que, en face d'un problème mathématique, ma première réaction n'est pas de voir la logique du problème, mais de voir la physique. Donc, quand je parlais de l'ensemble Mandelbrot comme étant sans application, c'était le début d'une phrase plus longue. Je voulais dire que l'ensemble Mandelbrot en lui-même n'a pas d'application. Mais toute mon œuvre a été motivé par cette application. Il est venu non pas pour des raisons mathématiques, mais pour des raisons physiques, pour des raisons de modèle de la nature, de modèle de comportement de certains systèmes dynamiques au sens d'aujourd'hui. Et mon but n'était pas de démontrer les théorèmes, ni même de faire des conjectures. Mon but était de comprendre certains objets physiques. Et pour cela, il m'a fallu faire des conjectures mathématiques.
On va y revenir, Emmanuel Bacry, sur cet aspect visuel qui est quand même très fondamental dans l'approche par les fractales. Est-ce que vous avez le même don, la même approche, ou bien est-ce que vous entrez dans les fractales par un autre biais ?
Alors, un petit peu la même approche. Je pense que quand on fait des mathématiques appliquées, l'œil est très important. Lorsqu'on observe des résultats numériques, pour avoir un peu de nouvelles intuitions qui vont orienter notre recherche différemment, ces résultats numériques, il va falloir les présenter sous forme de courbes, et c'est l'œil qui va peut-être structurer ce qu'on voit et qui va éventuellement avoir des idées pour aller chercher certaines structures qui sont cachées.
Sur les applications, justement, aujourd'hui, quelles sont celles qui vous paraissent, puisque vous êtes un praticien depuis beaucoup moins de temps que Benoît Mandelbrot, oui. Quelles sont celles qui vous paraissent les plus fructueuses ou les plus prometteuses aujourd'hui ?
Il y a une application qui est difficile de passer sous silence, qui est la turbulence, qu'on appelle la turbulence pleinement développée. Donc il s'agit des écoulements fluides particulièrement turbulents, qu'on observe notamment dans l'atmosphère. Ça a eu un lien quand même tout particulier avec les fractales, puisque je pense que les premiers exemples de fractales ont servi de modèle à la turbulence pleinement développée. Il y a même des notions comme la notion de multifractale, qui est une notion fondamentale dans la théorie des fractales, qui a été introduite initialement pour décrire des phénomènes turbulents, pour décrire certains aspects des phénomènes turbulents. Et aujourd'hui, je pense qu'il est difficile pour quelqu'un qui s'intéresse à la théorie même des fractales, qui fait de la recherche fondamentale sur les fractales, de ne pas avoir un lien constant avec la turbulence pleinement développée, où il y a toujours de nouvelles idées qui viennent. C'est, je pense, quand même un domaine encore qui reste aujourd'hui, même si aujourd'hui, je crois que l'état de la recherche nous dit que la turbulence n'est pas strictement fractale, donc il commence à y avoir un petit peu des déviations par rapport à une théorie purement fractale. Je pense que ça reste quand même un domaine de prédilection.
Madame Mandelbrot, est-ce que c'était une application que vous envisagiez dès le départ ?
Absolument. Et il s'est trouvé que mon premier travail a été en finance. Et vers la fin de ce travail, un ami m'a apporté des données sur des phénomènes de fluctuation qui n'étaient pas la turbulence proprement dite, mais qui étaient extrêmement irréguliers, extrêmement sauvages, comme je dirais aujourd'hui. Et je me suis attelé à ce travail. Et ceci est en même temps qu'un article fondamental d'un très grand mathématicien russe qui s'appelait Kolmogorov est sorti. L'article de Kolmogorov et mes recherches étaient en contradiction absolue. C'est une situation extrêmement pénible pour un débutant que j'étais, car Kolmogorov était l'homme parmi ceux que j'admirais le plus, et que je n'ai pas d'autorité particulière à trouver que ces recherches étaient correctes. Donc je me suis attelé à ce travail de trouver un terrain commun. Et bien sûr, Kolmogorov, dans ce cas particulier, est allé très vite et il a fait beaucoup d'erreurs. Et le corriger a été un travail gigantesque et très fructueux. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc découvert justement les multifractales dont on vient de parler. Et tout de suite, les ayant découvertes, j'ai constaté qu'elles avaient des propriétés auxquelles je ne m'attendais pas, et qui étaient des propriétés que je cherchais dans un objet mathématique dans le but de modéliser la finance. Alors, un des articles, en fait, le premier article complet sur la turbulence basé sur le multifractal que j'ai écrit en 72, et finissait par une sorte de remarque, les techniques qui viennent de développer s'appliquent de façon claire et immédiate au problème de la finance. Mais à ce moment-là, le moment n'était pas de l'exposer pour des raisons tenant à l'évolution du sujet. Les gens qui s'occupaient des finances n'étaient pas d'humeur à m'écouter, et donc je me suis orienté vers le développement de la théorie des multifractales et ensuite des fractales. Mais cette idée vient en somme à un mot très très ancien qu'on attribue quelquefois à Carnegie, quelquefois à Mellon ou à Morgan, et que la bourse et le temps sont également imprévisibles. C'est une boutade, mais une boutade qui se trouve contenir beaucoup plus de vérité qu'on aurait pu y penser.
Alors je crois qu'on reviendra effectivement dans notre deuxième volet sur l'application financière. Pour en rester à cette application, à la turbulence de l'atmosphère, Emmanuel Bacri, comment concrètement on peut expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'apportent les fractales ? Est-ce que ça nous permet vraiment, par exemple, de modéliser l'atmosphère, de pouvoir prévoir l'évolution des différentes masses qui sont en présence, etc.
On n'en est pas là, quand même. Je veux dire, c'est évidemment ce que les gens ont en tête, mais la turbulence est un problème excessivement complexe. On va peut-être en parler, mais c'est ce qu'on appelle un système chaotique. Enfin, les équations qui régissent les écoulements turbulents sont des équations qui sont chaotiques, donc extrêmement difficiles à prédire. Mais ce qui est intéressant sur l'approche fractale de la turbulence, c'est qu'en général, de façon générale, même quand on fait du traitement de signal, donc ça je parle un petit peu pour moi, c'est-à-dire qu'en général, on ne va pas s'intéresser au problème, à l'application, en essayant de résoudre les équations de la physique qui régissent, qui ont conduit au phénomène, d'accord ? Mais on va regarder directement une série historique, comme on va pouvoir le faire aussi en finance, mais une série historique, par exemple, de météo, donc par exemple le temps, la température en fonction du temps dans un point de l'atmosphère, et on va étudier directement ce signal-là et essayer de voir quelles sont les propriétés de ce signal-là. Donc on va pas chercher, on va éviter de s'attaquer au problème qui est très dur à appréhender tant d'un point de vue théorique que numérique, qui est de résoudre les équations qui régissent les écoulements turbulents.
Là, alors, vous analysez plutôt donc les données.
On analyse directement les données. Mmh. Et quand on analyse directement les données, ce qu'on va voir, par exemple, si on peut faire des expériences. Alors si on prend un très gros tunnel, il faut imaginer un gros tunnel de, je sais pas, 10-20 mètres de diamètre. On prend un énorme ventilateur qui fait aussi 10-20 mètres de diamètre, qu'on fait souffler à très très grande vitesse. Qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer des énormes tourbillons de la taille du ventilateur. Et ces tourbillons-là vont se casser en plus petits tourbillons, qui eux-mêmes vont se casser en plus petits tourbillons, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à des tourbillons qui sont tellement petits qu'ils ne peuvent plus subsister parce que l'air est un petit peu visqueux, et ils vont en fait mourir à cause de la viscosité de l'air. Donc ça, cette sorte de cascade, hein, en fait, porte le nom d'un scientifique du début du siècle, c'est la cascade de Richardson, a justement des propriétés fractales. Et je dirais que un des principaux buts des gens qui travaillent sur les fractales en turbulence est d'essayer d'exhiber cette cascade, d'essayer de regarder quelles sont ses propriétés, de réussir à trouver des caractéristiques et éventuellement, dans un second temps, arriver à partir de là à l'utiliser pour faire des prédictions statistiques, pour faire de différentes applications.
Bonhomme Armel Prout.
Je voudrais souligner ce point qui est essentiel. Dans tous ces cas-là, il est très important de voir, d'une part, la difficulté et l'utilité du problème. Il y a une tendance en mathématiques appliquées, où il y avait une tendance qui a disparu, mais enfin, était très forte de mon temps, pour dire que des maths appliquées, c'est des choses que des mathématiciens de second ordre, troisième ordre vont faire, parce que c'est facile. En fait, les maths appliquées, quand on veut se tenir très près des phénomènes aussi complexes que la turbulence, sont des difficultés extraordinaires, une source constante de problèmes ouverts. Et ce qui est aussi très, très important, c'est l'aspect d'universalité et de particularité qu'il y a là-dedans. Ce dont je suis parti n'était pas la turbulence dans les fluides, c'était les fluctuations dans les signaux sur les lignes téléphoniques, signaux électriques. Équations très différentes, comportements très différents, en principe, mais en réalité, quand on regardait données empiriques qui à l'époque étaient d'un côté pratique immédiat, pour IBM en 62-63, on s'apercevait de certaines structures mathématiques qui étaient incompréhensibles aux ingénieurs qui avaient affaire à ça. Et la percée fondamentale pour moi consistait à me rappeler des choses qu'aucun ingénieur n'aurait connues, à savoir l'ensemble de Cantor, et de reconnaître dans ces suites d'erreurs sur ligne téléphonique des cascades de rafales d'erreurs et de les modéliser par l'ensemble de Cantor. Et les termes importent peu, mais ça consistait à résoudre un problème terre à terre par des méthodes qui étaient aussi loin de la terre que possible. Et cette union du très 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 concret et ce qui à l'époque était considéré comme étant absolument abstrait a été le point essentiel et qui a rendu cette entreprise différente de beaucoup d'autres.
Emmanuel Bacry, ce qui est spectaculaire avec les fractales, c'est qu'on a l'impression qu'une même approche peut s'appliquer à des domaines complètement différents qui ont quand même un point commun, évidemment. C'est un certain aspect chaotique, mais qui, physiquement, sont totalement distincts. Quand on parle à la fois de turbulence des gaz, de variation du temps ou bien de fluctuation de la bourse, il n'y a pas de point commun en termes de nature des phénomènes eux-mêmes. Leur point commun, sans doute, c'est leur aspect chaotique. Alors,
tout à fait. L'aspect commun, c'est le côté chaotique. Et en fait, ce qui est étonnant dans le chaos...
Le chaos est commun à tout.
Ce qui est étonnant dans le chaos, c'est que vous avez des points communs à tout le chaos. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle le chaos, en fait? Le chaos, c'est une théorie qui a été introduite par Poincaré, et en fait, qui est connue plutôt quand on est scientifique, qui est connue sur le nom de chaos déterministe. Qu'est-ce que c'est que le chaos déterministe? C'est simplement de dire que, avec des règles extrêmement simples de dynamique, vous arrivez à produire des comportements qui semblent aléatoires. Ou autrement dit, ce que l'œil peut voir comme quelque chose de complètement chaotique, complètement aléatoire, peut être généré par une simple itération d'équations mathématiques extrêmement simples, et qui permettent de générer ces comportements. Alors, je pense qu'il y a un exemple très simple que j'aime tout particulièrement, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, qui est la pâte feuilletée. Vous prenez, je ne sais pas si vous savez comment on fait une pâte feuilletée, vous prenez une abaisse de pâte, vous étalez la pâte en rectangle, vous décomposez mentalement ce rectangle en trois parties égales, et vous rabaissez les deux parties extérieures sur la partie centrale. Vous avez obtenu trois feuilles. Et puis vous recommencez, c'est le premier tour de pâte. Vous recommencez et vous obtenez trois groupes de trois feuilles maintenant. Donc ça fait 9 feuilles, puis 27, puis 80, et ainsi de suite. Alors là où le pâtissier s'arrête au bout de 5-6 tours, le mathématicien fait un nombre de tours infini et va arriver à un objet qui est justement chaotique. Dans quel sens? Dans le sens suivant, si vous mettez une petite pépite de chocolat sur votre abaisse au départ, et que vous vous intéressez aux positions successives de cette pépite de chocolat après, à la fin de chaque tour. D'accord ? Et vous regardez juste cette position successive de pépite. Et ben, c'est assez facilement, on comprend assez facilement que cette position va avoir un comportement chaotique, c'est-à-dire que ça va être extrêmement compliqué, la position va vraiment varier énormément d'un tour à l'autre, ça va être extrêmement compliqué pour l'œil, à partir simplement de ce signal de position, de recouvrir le système dynamique qui a engendré effectivement cette chose-là. Alors le lien avec les fractales, je termine juste là-dessus parce qu'on ne voit peut-être pas le lien avec les fractales, c'est que la structure des feuilles est en fait fractale, dans le sens que vous avez trois feuilles et les groupes de trois feuilles sont organisés en trois groupes qui sont eux-mêmes organisés en trois groupes et ainsi de suite. Et donc naturellement, les systèmes dynamiques peuvent conduire à des fractales.
Jean-Normand Delbrode, malheureusement, là, nous devons conclure cette première partie.
Je vous donne un exemple à ce qui vient d'être dit. Et tout le monde est familier de cette idée d'une opération très simple qui se répète. La croissance d'une plante est faite de bourgeonnements successifs. Et quand on regarde certaines plantes, par exemple le chou-fleur, se trouve-t-il, leur structure de croissance est extrêmement apparente. Donc l'idée qu'une formule très très simple, une fois répétée, de façon définie, puisse produire une courbe très très compliquée, est une idée que tout le monde sait très bien. À condition qu'on le fasse remarquer.
Très bien, eh bien, Science Friction s'achève et nous remercions nos deux invités, Benoît Mandelbrot et Emmanuel Bacry, d'y avoir participé. La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur l'application des fractales au domaine particulièrement chaotique des cours de la Bourse. Et il s'agit d'ailleurs du thème du dernier ouvrage de Benoît Mandelbrot, qui vient d'être publié en français chez Odile Jacob sous le titre « Une approche fractale des marchés, risquer, perdre et gagner ». Sur le site de Science Friction confectionné par Christine Gage sur franceculture.com, vous pourrez réécouter cette émission pendant une semaine et vous trouverez des références d'ouvrages ainsi que des adresses internet sur les fractales. Cette émission, coproduite par France Culture et le journal Le Monde, a été réalisée par Brigitte Aléo avec Claude Niort à la technique. Merci et à samedi prochain pour le second volet de Science Friction consacré aux fractales avec Benoît Mandelbrot et Emmanuel Bacry.